Décryptage, Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Ils étaient encore des milliers de militants pro-démocratie ce mercredi dans les rues de Bangkok, la capitale thaïlandaise. Encore, car c'est un mouvement qui dure depuis plusieurs mois, qui a connu un point culminant le 19 septembre dernier, quand plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté. C'était tout simplement du jamais vu depuis le coup d'État qui a porté le général Prayut Chan-o-cha au pouvoir en Thaïlande. C'était en 2014. Et c'est cet homme, aujourd'hui Premier ministre, dont les manifestants réclament la démission. Il demande aussi autre chose, et ça aussi c'est une première, la réforme de la monarchie en Thaïlande, alors que le crime de lèse-majesté reste passible de plusieurs années d'emprisonnement. Jusqu'où ira ce mouvement? Est-ce qu'il faut craindre une répression ou est-ce que la percée démocratique vaincra? Voilà nos questions ce soir, soyez les bienvenus dans Décryptage. Et notre invité à nos côtés en studio, Marie Sibylle Devienne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités à l'INALCO. Première question très simple, hein, pour un petit peu camper le décor. Ce mouvement, de quand date-t-il, où est-ce qu'il trouve ses origines?
Il démarre en février 2020, suite à la dissolution du parti Anakot Mai, qui était le parti qui avait obtenu la troisième place aux élections législatives de 2019. Le parti est dissous par la Cour constitutionnelle suite à l'accusation de donation déguisée, le président du parti, le milliardaire Thanatorn, ayant accordé un prêt de 5,5 millions d'euros qui est considéré comme une donation déguisée, ce qui est contraire à la loi sur le financement des partis politiques.
Vraie raison ou est-ce que c'est finalement aux abois un petit peu
qui... Alors, c'est une interprétation du droit qui n'est pas favorable au parti Anakot Mai. Derrière, vous avez un certain nombre de facteurs. C'est le parti qui avait le plus bénéficié du scrutin de liste de l'actuelle constitution thaïlandaise, c'est de 2017. Vous avez 350 députés qui sont élus au suffrage universel direct à un tour. Et puis, vous avez 150 députés qui sont élus sur la base des listes présentées par les partis. Pour faire simple, vous divisez le nombre de sièges par le nombre de suffrages, et tous les partis qui ont eu moins de sièges que le ratio national nombre de sièges par nombre de suffrages se sont vus attribuer des sièges supplémentaires. Or, le parti Anakot Mai s'est en été vu attribuer 51. Conformément à la Constitution et avec une interprétation qui ne lui était pas défavorable.
Et c'est un parti jugé pro-démocratie qui est porté par ses militants qu'on retrouve aujourd'hui dans la rue?
C'est un parti, c'est pas forcément ses militants, c'est plus nuancé que ça. Mmh. C'est un parti avant tout progressiste, qu'on peut qualifier de parti moderniste, interniste, internet, qui ramasse réseaux sociaux.
Ouais. Qu'on retrouve énormément dans les manifestations, voilà, on en parlera certainement.
Voilà. Qui a un ratissé très large, basé sur des jeunes instruits, éduqués, qui en forment le noyau dur, qui est très populaire parmi eux, mais où vous voyez aussi bien des gens qui étaient du côté des rouges, des taxinistes, et qui ne s'en sont écartés, que des constitutionnalistes, des maoïstes, des ex-maoïstes, ou en tout cas communistes, de sensibilité extrême-gauche d'un côté, des mouvements qui sont marginaux, mais qui sont quand même dans le parti LGBT de l'autre. Donc quelque chose qui ratrisse très large, avec une ligne qui est en fait floue, pas de véritable programme, mais un parti réformiste.
Alors on a bien compris que la fin de ce parti, en tout cas, c'était un petit peu l'étincelle qui avait donné naissance au mouvement pro-démocratie qu'on connaît en Thaïlande depuis plusieurs mois. Qui sont les manifestants aujourd'hui qui défilent parfois dizaines de milliers, je le disais, pour la première fois 19 septembre dernier, plusieurs dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie à Bangkok?
Alors, la caractéristique commune de ces manifestants, disons jusqu'au début septembre, c'est que ce sont des jeunes éduqués, urbains. Mmh. Donc c'est vraiment un ciblage particulier, des gens qui, il y a quelques lycéens pour correspondre aux dernières classes de lycée, mais le gros, ce sont des étudiants avec comme noyau dur l'université de Thammasat. Alors, L'université de Thammasat.
Elle a une histoire particulière.
Elle a une histoire particulière. Déjà, le numéro 2 du parti Anakot Mai, Nouvel Avenir dissous en février, est professeur de droit constitutionnel à l'université de Thammasat et il a démissionné de son poste de professeur pour devenir le secrétaire, fonder le parti et devenir son secrétaire général. Deuxièmement, l'université de Thammasat a une histoire particulière. Elle a mené des grandes manifestations en 73 et en 76 et en remontant au-delà. Là, elle a été fondée en 1934 par l'un des initiateurs du mouvement démocrate.
Et c'est surtout qu'elle a connu le massacre de
Mais c'est ce que j'ai dit, 73, premier grand mouvement et répression, et 76...
Plusieurs dizaines d'étudiants qui sont massacrés par les autorités.
Oui, alors ça, c'est en 1976.
Voilà, en 1976, ce massacre qui aujourd'hui, on a l'impression que les manifestants s'appuient sur cette histoire. Il y a un manifeste qui a été publié, le manifeste de Manassat, en 10 points, sur les revendications des manifestants. Est-ce que ça peut être une manière, justement, par rapport à ce passé peu glorieux pour les autorités, une manière de faire pression sur ces autorités?
Alors, ça évoque quelque chose de douloureux, de très sensible dans l'histoire de la Thaïlande, une tâche, si vous voulez, sur son histoire. Le contexte était très particulier. Il faut voir que la Thaïlande, à l'époque, elle était sur la ligne de front. 76, c'était la victoire communiste à sa frontière est. Elle avait plusieurs centaines de milliers de réfugiés, essentiellement cambodgiens, et les Khmers rouges à la porte. Les États-Unis s'étaient retirés. Donc, on avait une période de crise très forte. Et les médias ont joué un rôle dans la centaine de personnes, d'étudiants qui sont morts dans ce massacre, particulièrement négatif, puisqu'il y avait eu un simulacre fait par les étudiants de pendaison de quelqu'un pour critiquer le personnage, et cette personne a été qualifiée par un certain nombre de tabloïds qui ont dit « mais il ressemble au prince héritier », et ça a été le démarrage de la répression. Or, le prince héritier en question, c'est le roi actuel.
Alors, le roi actuel, justement, qui fait des vagues, hein, clairement, c'est l'occasion d'en parler, parce que il est au pouvoir depuis seulement quelques années, il a succédé à son père, qui est décédé en 2016.
Oui, il n'est pas au pouvoir, il est sur le trône.
C'est
justement
le trône,
toute une série de nuances.
On va évoquer, évidemment, cet équilibre entre monarchie et gouvernement en Thaïlande, mais sur le roi, justement, parce que est-ce que c'est une ligne rouge qui a été franchie, le fait que, pour la première fois, une réforme de la monarchie en Thaïlande est réclamée par des manifestants?
Alors, c'est une ligne rouge parce que jusque-là, aborder le sujet de la monarchie était anticonstitutionnel et le reste, ce sont les deux premiers articles de toutes les constitutions thaïlandaises. Le roi est inviolable. Donc il ne peut pas être. On ne peut pas lui demander de rendre compte de ses actes. En tant qu'il est roi, il est en position d'inviolabilité. Position que vous trouvez d'ailleurs dans beaucoup de constitutions, y compris républicaines, pour les chefs de l'État. Donc, s'ajoute à ça l'article 112 du code pénal qui est le lèse-majesté.
Passible de plusieurs années de prison.
Passible de plusieurs années de prison, mais justement, le roi actuel a fait savoir qu'il ne voulait pas que ça nuisait profondément à la monarchie, c'est en quoi il a raison, d'utiliser le lèse-majesté et les dépôts de plaintes et surtout les instructions pour lèse-majesté ont beaucoup augmenté depuis 2006 et que ça nuisait à la monarchie de l'utiliser pour dégager des personnes de l'opposition. Et de fait, depuis 2018, vous n'avez pas eu plus de condamnation pour crime de lèse-majesté en Thaïlande. Ce qui est en revanche utilisé, c'est le délit de sédition.
Qu'est-ce qui est reproché à ce roi aujourd'hui?
Alors, ce qui est reproché à ce roi, c'est son indépendamment de sa personnalité, sur lequel je ne vais pas rentrer parce que les tabloïds en parlent assez, c'est pas en fait le fond du problème. Il y a un premier élément qui nuit à la construction de son image, c'est le fait qu'il réside majoritairement en Bavière, pour des raisons d'ordre privé, y compris de santé. Le deuxième élément qui lui est reproché, et ça c'est vraiment des questions de fond, c'est le fait qu'il a centralisé autour de sa personne des instruments qui jusque-là étaient supervisés par les différents corps de l'État pour gérer ce qui tourne autour du palais et de la couronne. Alors, je m'explique. Bon, comme il réside à l'étranger, il a fait modifier la constitution provisoire le projet de 2016 et de manière à ne pas automatiquement désigner une régence pour faciliter ses va-et-vient aux commandes d'un de ses Boeing personnels entre la Bavière et la Thaïlande.
Donc il l'a durci à son avantage.
Il l'a pas durci, mais il a, simplifié le processus. Évidemment, les conditions de communication avec la Thaïlande aujourd'hui n'ont rien à voir à ce qu'elles étaient lorsque ces dispositions existaient. Puis surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réorganisé la structure du palais. Le bureau de la Maison Royale, qui jusque-là, sur lequel le premier ministre avait un droit de regard, échappe à ce contrôle. Et les différentes divisions de la sécurité royale, pour celle de l'armée, sur lequel le ministère de la Défense avait un contrôle, et pour celle de la police, sur lequel le ministère de l'Intérieur avait un contrôle, ont été organisées sous un commandement unique, qui est aux ordres du roi et de lui seul.
Il s'est donc arrogé de nouveaux pouvoirs et il empiète sur le pouvoir politique ?
Non, il a réorganisé avec une chaîne de commandement unique le palais. Mais le palais et la couronne, ce n'est pas la Thaïlande, c'est un petit microcosme, ça n'a rien à voir avec la gestion du quotidien de l'exécutif.
Pour bien comprendre, en quelques mots rapidement, c'est quoi le rôle du roi par rapport justement au rôle des autorités ? Est-ce qu'on peut faire un parallèle ? Est-ce que c'est un système à la britannique finalement, entre monarchie et gouvernement ?
C'est un système qui s'est inspiré du système britannique, mais avec un fond culturel qui n'a strictement rien à voir. Donc, si on en s'en tient à la Constitution... la Constitution de 2017 donne au roi un droit de regard sur les nominations militaires parce que depuis des décennies, une succession de constitutions, depuis on fait du roi le chef des armées, donc ça lui donne un droit de regard sur les nominations, il peut essayer d'influencer sur les rotations à la tête de l'armée. Bon, mais c'est tout. Ce qu'il a à côté. C'est en cas de bloc de ce qui n'est pas nouveau de la Constitution actuelle et sur ce point-là, c'est pas là-dessus que ça bloque. S'il n'est pas d'accord avec un projet de loi qu'il doit signer, il peut le renvoyer au Parlement où il sera encore examiné. Et puis s'il n'est pas modifié entre temps, s'il n'est pas, je simplifie.
Bien sûr.
Outrepasser l'opposition du roi au projet, à ce moment-là, il faut la majorité des deux tiers. Mais ce point-là n'existe pas. N'est pas propre à la constitution actuelle. Ça existe dans un certain nombre de la plupart des constitutions antérieures et son père n'en a jamais fait usage. Et lui, jusqu'à maintenant, il n'en a pas fait usage non plus.
En tout cas, le roi a ses partisans. C'est ce qui est particulier dans le mouvement. On évoquait évidemment le mouvement pro-démocratie qui mobilise des milliers de personnes depuis plusieurs mois en Thaïlande. Le roi a des partisans. Il y a eu des manifestations pro-royalistes, pas plus tard qu'aujourd'hui. Et il peut y avoir, vous allez nous le dire ou non, Marie-Sybille Devienne, un affrontement entre pro-démocratie et pro-royaliste. Écoutez le témoignage de ce commerçant de Bangkok qui tient à défendre le roi.
Nous sommes venus en famille pour défendre la monarchie, pour dire aux étudiants qui se rassemblent aujourd'hui, qui peut-être ne comprennent pas à cause de leur jeune âge, que la monarchie c'est la base de notre identité thaïlandaise. Et pour nous, les Thaïlandais, les propos qu'ils tiennent sur leur roi, ce n'est pas acceptable.
Marie-Sybille Devienne, il risque d'y avoir un affrontement parce qu'on parle évidemment de cette mobilisation des pro-démocraties. Il y a les pro-royalistes qui ont manifesté, qui n'étaient pas loin les uns des autres à Bangkok aujourd'hui. Il peut y avoir un affrontement entre les deux camps ? Est-ce que c'est ça finalement qui peut faire basculer le mouvement dans la violence ?
Personne ne le souhaite.
Bien sûr.
Ni un côté, ni l'autre. La société thaïlandaise a été très polarisée. Encore une fois, c'est pas tant la personne du roi qui est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est l'institution monarchique qui est considérée comme une des composantes culturelles de temps long de la Thaïlande. Et alors que vous avez eu 20 changements de constitution depuis 1932, vous n'avez eu que 3 changements de souverain. Donc c'est une institution qui est vécue comme beaucoup plus pérenne que les institutions modernes. Donc, et puis par derrière, vous avez des éléments qui sont d'ordre de l'anthropologie politique derrière. Donc on comprend que les gens soient très attachés à la monarchie.
Mais les militants pro-démocratie, ils veulent une réforme de la monarchie ou ils veulent la fin de la monarchie ?
Ils veulent une réforme. Et avec deux niveaux, soit vous avez une demande en trois points qui, au départ, les manifestations, elles visaient le gouvernement, la constitution qui, avec un Sénat nommé de 250 membres, était jugée à juste titre peu démocratique, d'autant que le Premier ministre devait être nommé par l'Assemblée et le Sénat. Hein. Bon, donc, c'était jugé comme peu démocratique. Donc, au départ, ce que les manifestants demandaient, c'est la démission du gouvernement, la refonte de la constitution et l'arrêt du harcèlement des opposants. Trois demandes. Et toute une partie des manifestants sont encore sur tes trois demandes. Puis les 10 demandes, là, avec un programme précis de réforme de la institution royale, apparaissent, elles, au mois d'août, sous la houlette d'un personnage qui est lui aussi un spécialiste des droits de l'homme.
La police et surtout les officiers en civil devraient faire attention à l'usage de la violence. On sait qu'il y a plus de 8000 policiers en uniforme mobilisés, mais on ne sait pas combien ont infiltré les manifestants en civil.
Notre décryptage ce soir sur RFI consacré à la Thaïlande au soir d'une nouvelle manifestation qui réunit des milliers de militants pro-démocratie. La femme que l'on vient d'entendre est une avocate de défense des droits de l'homme. Elle évoquait la présence de la police dans les manifestations. C'est un point important. Marie-Sybille Devienne, la réponse des autorités. On a évoqué le risque d'affrontement pro-démocratie, militant pro-royaliste. Est-ce qu'il peut y avoir la réponse des autorités? Ça peut être une répression par la police?
Alors, pour l'instant, ce n'est pas la réponse qui est faite dans le contexte actuel, mais le projet de faire réviser la Constitution a été bloqué au Parlement. Donc, ça peut dégénérer, mais tout le monde actuellement a peur que cette année dégénère.
Enfin, qu'est-ce qui fait que ça pourrait dégénérer? C'est parce que pour l'instant, les manifestations sont pacifiques. Si elles ne deviennent plus, c'est ça la marge de manœuvre, entre guillemets?
C'est ça la marge de manœuvre. Les manifestations de 2010 étaient loin d'être pacifiques. Soit du côté jaune ou du côté rouge, les manifestations de 2014 étaient aussi très tendues. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de dérapage, vous n'avez pas eu de casse d'incendie de bâtiments, vous n'avez pas eu de répression avec intervention de l'armée ou de la police. Bon, il y a eu des arrestations, mais libérées sous caution. Ça se passe dans le calme, ce qui est aussi quelque chose de nouveau. Et tout le monde a peur de ce qui s'est passé en 2010. Et tout le monde a peur aussi de ce qui s'est passé en 1976. Donc, la crainte, c'est que vous ayez des éléments qui jouent la stratégie du pire et qui infiltrent d'un côté ou de l'autre pour pousser à un affrontement quelconque. Et ça, pour l'instant, ça ne s'est pas produit, y compris aujourd'hui.
On a l'impression que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe à Hong Kong, avec un mouvement pro-démocratie qui est observé de près par les autorités qui n'interviennent pas, qui laissent faire.
Alors, quand même, une situation qui est très... c'est des jeunes, hein, dans les deux cas. Il y a quand même une chose différente en Thaïlande, c'est que depuis septembre, un certain nombre de gens du côté rouge, taxinistes, ont rejoint, et de manière croissante, les manifestations, y compris aujourd'hui. À Hong Kong, on a un mouvement qui est plus circonscrit, et par derrière, on a un véritable problème de fond, qui est le fait que l'autonomie de Hong Kong, si elle fonctionne sur le plan économique, elle est extrêmement réduite sur le plan politique. Le chief minister n'est pas élu suffrage universel direct. Elle a l'assemblée législative locale. Elle n'est pas élue en totalité.
Le parallèle que je voulais faire surtout, c'est l'idée qu'on a un mouvement pro-démocratie qui avance, mais qui semble mettre des années à percer. Est-ce que c'est ce qui va se passer aussi, selon vous, en Thaïlande? On approche bientôt de la fin de l'émission. Est-ce que ce mouvement pro-démocratie, ça va être encore une petite avancée vers la démocratie en Thaïlande, ou est-ce que vraiment il peut y avoir un changement majeur?
Alors, il faut distinguer entre la pratique et la constitution. On peut très bien avoir une 21e constitution, on a l'habitude de faire des constitutions en Thaïlande, une constitution qui soit plus démocratique, avec un Sénat élu en totalité, et une assemblée, des chambres des députés qui choisissent seuls le Premier ministre. Enfin, quelque chose sur les limites apportées à l'exercice démocratique de la constitution actuelle qui sauteraient. On peut tout à fait le penser. Ce n'est pas pour autant que la pratique politique en Thaïlande sera radicalement différente de ce qu'elle est. On a quand même des partis politiques qui ont pas de peu de programmes et des hommes politiques qui changent de parti comme on change de chemise.
Eh bien, on va donc suivre alors cette évolution de ce mouvement. Merci beaucoup Marie-Sébile de Vienne, professeure des universités à l'INALCO. C'est la fin de ce décryptage. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation, Éléonore Krenik à la préparation. Merci à la Doc, à la Sonothèque de RFI. Restez à l'écoute parce que Guillaume Nodin est là dans une poignée de secondes sur RFI pour le débat du jour.